Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau balado de l'agenda. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Thierry Paquet, avec Jonathan Carrero et moi-même, Samuel Lamarche. On va aborder divers sujets que je vais nommer à l'instant. On va parler du travail des jeunes, soit pendant la crise, après la crise. On va parler de santé mentale et d'adaptation technologique. On va parler de l'esprit critique, de l'analyse des données. On va évidemment revenir sur certaines mésinterprétations classiques qui ont été faites dans les médias. Et finalement, on va parler du fédéral et du provincial. En ce moment, avec la crise et tout ça, est-ce qu'on est en compétition ou est-ce que c'est simplement dysfonctionnel? Et donc, messieurs, bonjour. Comment est-ce que vous allez?
Ça va bien, toi?
Moi, ça va très bien. Toi, Jonathan, comment ça va?
Ben, écoute, en bon français, top shape. Je pense que... Non, mais tu sais, c'est quand même intéressant de le mentionner. Surtout quand on regarde les plus récents chiffres, on voit que le Québec, bon, on a quand même un nouveau pic de cas et je crois pertinent de le mentionner. Alors, oui, je vais bien. Maintenant, est-ce que ça va bien? En général, je ne crois pas et je crois que c'est important d'avoir une distance pour éviter d'être naïf sur ce qui arrive au Québec en ce moment. Surtout à Montréal, évidemment. Mais bon, on va avoir la chance d'en parler avec ces beaux sujets, justement, que tu nous as présentés, Sam. Mais c'est clair, je vais bien et j'espère continuer d'aller bien, comme nous trois, d'ailleurs.
Oui, effectivement. Surtout que toi, tu as été malade pendant un certain temps avec une espèce de grippe qu'on a eu peur pendant un instant.
Effectivement.
ça avait été assez stressant. Mais là, on va commencer tout de suite, parce qu'on parle d'être en santé. On va parler de santé mentale et d'adaptation technologique. Parce que oui, santé mentale et santé physique, c'est plus proche que ce qu'on pense. Messieurs, comment est-ce que vous pensez, avec la crise actuelle, le confinement, plusieurs personnes se sentent seules, plusieurs personnes ont de la difficulté à vivre avec l'isolation. Est-ce que vous avez peur que ça soit quelque chose qui marque plusieurs pour longtemps, ou est-ce que vous pensez justement avec le déconfinement progressif, on va réussir à s'en sauver sans trop de dommages?
Ben, je veux dire, d'une part, il faut faire la nuance entre ce qui se passe présentement et ce qui va se passer dans le futur. Présentement, on le voit, et ça, c'est pas juste au Québec, évidemment, c'est au niveau mondial, le taux de suicide, le taux de violence conjugale augmente drastiquement. Il faudrait confirmer pour les homicides volontaires. Je ne suis pas convaincu de ça, mais pour les deux premiers...
C'est difficile de tuer quelqu'un quand t'es pris chez vous.
Ben, c'est ça. Alors, c'est normal. D'ailleurs, fait cocasse, ça va de soi. Le taux de divorce également augmente présentement. mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, au niveau psychologique, il est certain que la crise à l'heure actuelle a un impact sur la santé des gens qui sont dans l'obligation, d'une part, d'être confinés, et deuxièmement, et là, je vais prendre le cas du Québec et en extrapolant du Canada, on est une société très sociale. Tu sais, on a besoin de sortir, on a besoin de rencontrer, on a besoin d'échanger, et le fait qu'on soit dans un confinement obligatoire, à l'heure actuelle, c'est légitimement problématique sur long terme et dans notre subconscient également, ça finit par endommager un peu nos va-et-vient de tous les jours. Alors évidemment, dans le futur, ce qui va être intéressant de voir, c'est à quel point, premièrement, les psychologues, les psychiatres vont être en demande, mais deuxièmement, c'est de voir à quel point les gens vont être capables de reprendre un cours de vie standard normal. Alors bon, définitivement...
Pas pour t'interrompre, Jonathan, mais Thierry, qui n'a pas eu la chance de se réchauffer encore, on va lui donner un peu de viande aussi autour de l'os.
J'essayais d'être poli.
c'est ma job, ça, l'animateur. Oui.
On va dire que t'es modérateur maintenant. Fait que, oui, effectivement, il y a la question de la socialisation en général, mais c'est aussi qu'il y a des gens, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire qu'on peut se le faire dire quand on rencontre, mettons, un travailleur social ou un psychologue, ont besoin d'un réseau de soutien. Et ce réseau de soutien-là, généralement, c'est leur communauté. Mais cette communauté-là, ils n'y ont pas accès durant les temps de crise. C'est quelque chose qu'on va voir aussi, par exemple, chez les toxicomanes, qui ont besoin de leur réseau de soutien. Bref, toutes les gens, en fait, qui ont des groupes. Donc, la thérapie de groupe en ce moment, ben, je suis désolé, ces gens-là, ils n'ont pas accès. Qu'est-ce que ça va causer? Je crois que c'est évident, c'est que ça va causer possiblement des rechutes ou une gestion du stress peut-être mal fait qui, justement, mène, par exemple, à de la violence conjugale ou à des détresses. Et ça, les détresses, il y en avait déjà. On a quand même certains chiffres intéressants à ce sujet-là en société. Moi, ce que je vais trouver intéressant, par exemple, puis je veux pas, on est sur le sujet de l'adaptation technologique aussi, c'est comment est-ce que les chiffres de détresse vont avoir bougé chez les jeunes et chez les vieux à cause du confinement? Puis tu sais, je dis les vieux, puis c'est vraiment pas péjoratif, honnêtement. On va dire, par exemple, chez les 40 ans, chez les 40 à 65 et 65 et plus, il y a des degrés d'adaptation à la technologie qui sont différents. On pourrait faire des moyennes, puis on fait des quand même assez probants. Mais durant la période de confinement, le fait que des gens ne travaillent plus, des gens ne soient pas dans leur domaine d'études, ça cause une différence dans le temps. Et le fait que les gens aient une bonne adaptation technologique leur permette d'avoir des contacts sociétaux quand même, va peut-être nous montrer qu'en fait, on réagit pas si mal que ça, les jeunes, à la crise. Honnêtement, je serais pas surpris qu'on s'en tire quand même assez bien. Et même dans certains cas, chez certaines strates d'individus, peut-être même mieux qu'en dehors de la crise.
Est-ce que le fait d'être rentré en confinement a eu un impact sur ta session? Dans le sens que, bon, je sais pas, au niveau, tu as dit que tu étais à Sainte-Foy, est-ce que à Sainte-Foy, ils ont pris des mesures, justement, pour poursuivre les cours en ligne ou quelque chose du genre?
Oui, tous les cours qu'ils pouvaient poursuivre en ligne, ont poursuivi en ligne. Dans mon cas, j'ai étudié en programmation, ce qui fait que pas mal tout, en fait, a poursuivi en ligne à un délai différent, c'est-à-dire qu'on a été 2 semaines sans cours en soi. Et après ça, les profs ont repris de différentes manières, comme par exemple, nous en mathématiques, on a une seule heure en fait par cours. Le reste est donné justement pour qu'on fasse nos exercices à la maison, donc on n'a pas nécessairement intérêt à être dans la classe virtuelle à ce moment-là. Des cours que, par exemple, 3 heures se donnent au complet, mais en soi, tu n'es pas obligé d'être présent dans ton cours. Et ça, c'était la condition qui était donnée par la direction de Cégep Sainte-Foy, par exemple. C'est, on donne les cours à distance, mais tu n'es pas obligé d'être présent pour le cours. Ça a quand même fait jaser, on ne se cachera pas que c'est pas tout le monde qui a bien réagi à ça, parce qu'il y a des enjeux de pédagogie qui rentrent là-dedans. Adaptation technologique est aussi vraie chez les professeurs. C'est, veux pas, ils ont dû s'adapter à VIA, en fait, qui était le système utilisé par les enseignants pour communiquer avec les élèves, pour leur transmettre les cours, mais aussi juste d'informatiser les cours. Pour ceux-là qui sont habitués, par exemple, de donner des cours plus magistraux, de les mettre sous format écrit, ben c'est pas dans leurs habitudes nécessairement. Il y a une adaptation pédagogique à faire aussi là-dedans. Ça, oui, il y a eu des mesures, mais elles ont toutes été prises égales, je dirais.
Tu me permets une intervention ici, messieurs? Parce qu'on parle justement de santé mentale et d'adaptation technologique. 2 points. Est-ce qu'on risque de voir peut-être une disparité entre les régions et les villes, notamment parce que les villes vont avoir un meilleur accès technologique, un meilleur accès à Internet ou de vitesse, des choses comme ça, alors que les régions, peut-être un peu moins, et là, ça va peut-être nous inciter à faire un certain investissement pour ces régions-là. Et deuxième chose, on voit plusieurs personnes maintenant remettre en question certains projets d'infrastructure en voulant dire, ben, avant, on ne croyait pas trop à ça, le télétravail, mais là, la société, elle fonctionne quand même assez bien, même en télétravail. Est-ce que c'est quelque chose qui se soutient à long terme?
Alors, moi, je vais dire une seule chose, et je crois que nous allons tous être d'accord. Je crois pertinent que Québec et Ottawa investissent massivement dans la connexion haute vitesse partout sur le territoire, à fort prix, parce que c'est évident qu'il va y avoir un fort prix à connecter le Canada au grand complet. Pour une simple et unique bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, Internet, c'est un service essentiel. À mon avis, c'est aussi simple que ça. Ça doit être considéré comme un service essentiel. Et à partir de là, imaginez la quantité de choses qu'on peut accomplir, en fait, tout simplement. Alors, non, service essentiel, Internet, il doit y avoir des investissements, c'est une obligation.
Vraiment, je suis vraiment d'accord sur ce point-là. C'est un gros défi, par exemple, on l'a vu, là, je ne sais pas ça fait combien d'années, combien de gouvernements qu'on parle, justement. Je crois que les premières fois que ça a été dit, ça date du premier mandat de Jean Charest de mettre, en fait, connexion haute vitesse partout dans la province.
Oui, effectivement.
C'est toujours des enjeux, en fait, qui sont rendus difficiles par le domaine des télécommunications. On connaît l'état, en fait, de ce domaine-là. C'est vraiment... On pourrait faire un balado complet là-dessus. Là.
Oui.
Mais effectivement, je pense que quand tu as utilisé le terme à fort prix, ben c'est pas conditionnel. C'est-à-dire que c'est obligatoire, c'est sûr et certain que ça va être à fort prix. Parce que sinon, si on embarque dans des discussions, ça va durer jusqu'à temps qu'on réabandonne le projet une énième fois. C'est triste. Mais si on le fait et on devrait le faire, ben il va falloir que le gouvernement se penche pour Bell, Vidéotron mm-hmm. et pour les autres fournisseurs du pays.
Qu'est-ce qu'on va faire la transition, moi je pense. Moi honnêtement, mon opinion est quand même assez connue là-dessus, c'est qu'il faut investir, mais je pense qu'on va faire la transition un petit peu subtile entre les deux. C'est qu'on parle d'Internet haute vitesse en région, des choses comme ça. On parle du travail des jeunes crise après crise, mais le travail des jeunes, c'est aussi d'étudier.
Oui.
Et donc, je me pose la question, si cette transition-là, on ne pourrait pas se poser la question avec cette potentielle transition, pas énergétique, mais technologique vers les régions, vers l'Internet un peu partout, le télétravail. Les cours à distance pourraient peut-être devenir un peu plus la norme et les étudiants qui veulent travailler à temps partiel pourraient se retrouver à pouvoir combiner plus d'heures et des études en même temps
dans le confort de chez eux. C'est... Je suis d'accord avec toi, Sam, mais par contre, Thierry a dit quelque chose de majeur, plutôt. C'est que le rapport académique entre le professeur et l'étudiant est hors de prix. Lorsque, notamment, on est rendu à des études universitaires et même au niveau du cégep, le contact entre le prof et l'étudiant, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer parce que c'est très subtil, mais c'est un élément qui permet l'enrichissement personnel. Alors, oui, les cours à distance, c'est bien parce que justement, ça permet aux étudiants en question de faire mille et une choses à côté également. Comme ça a été le cas, pas pour nous de facto, pour le reste de cette session-ci qui vient de se compléter. Mais, toujours le contact, le rapport académique. Malheureusement, rendu au cégep et à l'université, il est primordial, à mon avis. C'est la meilleure façon de se créer un réseau de contact, d'ailleurs, pour des plus hautes études comme la maîtrise et le doctorat, si je peux dire. Alors, oui, mais non. Moi, je reste nuancé sur cette question-là.
Toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense beaucoup de choses, OK? Regarde-moi bien aller. en ce moment, je suis à distance avant, puis quand j'ai décidé d'aller, puis je le cacherai pas, je suis à l'ASC en programmation. Quand je décide d'aller à l'ASC, je voulais justement être en personne. C'est-à-dire que je trouvais justement que le contact était important. Toutefois, j'ai vu une réponse surprenamment positive d'une quantité incroyable d'élèves qui ne sont pas dans les plus jeunes, vraiment pas. Du monde dans la quarantaine, minimum mi-trentaine, facilement quarantaine, qui aime beaucoup mieux en ce moment être à distance. Il y a une grosse variance, je dirais, dans le domaine académique de est-ce que, par exemple, pour l'élève, c'est mieux d'être en personne ou non. Je pense qu'il n'y a pas de réponse fixe à ça. Moi, personnellement, puis ça, c'est une opinion. Je suis pour le système hybride, c'est-à-dire présentiel non obligatoire avec matériel disponible en ligne. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère parce que je suis partiellement autodidacte, mais je valorise aussi l'expérience de l'enseignant, mais aussi, il y a une raison pour laquelle on a des enseignants, c'est parce qu'ils ont des méthodes pédagogiques. J'ai enseigné de côté aussi la musique, principalement le chant. Puis honnêtement, vous n'avez pas idée à quel point on développe des techniques pour répondre aux besoins de différents élèves. Mais il y a des élèves que leur besoin, c'est d'être d'eux-mêmes, c'est d'être par eux-mêmes, c'est d'apprendre de leur propre manière. Fait qu'il n'y a pas de réponse fixe à ça, mais c'est comme une espèce de gros nuage de toutes les options qu'on doit rendre disponibles à la communauté étudiante. Et pour rendre disponible ça, je retourne sur le sujet principal, bien écoute, c'est justement de rendre Internet disponible, puis d'engager, par exemple, les cégeps et les universités à demander à leurs profs vraiment rendre des matériels disponibles le plus possible pour permettre le plus de méthodes d'éducation différentes.
Et ça, un peu comme l'Université Laval fait avec les cours Komodo, c'est-à-dire en mode commodal. C'est-à-dire, l'enseignant va faire son cours en présentiel, qui n'est pas obligatoire. Il va enregistrer le cours en même temps et répondre aux questions des gens sur le chat. Et une fois que le cours est terminé, il va publier l'enregistrement du cours sur le site web. Et donc, tu as le choix d'aller en classe, de l'écouter en direct en ligne ou de l'écouter en direct en différé. Et plus de tout ça, tous les documents supplémentaires sont transmis par le site ou en présentiel. Personnellement, je trouve que c'est une stratégie qui pourrait être adoptée de manière plus générale pour plusieurs écoles, plusieurs universités qui ont les moyens de faire ça, entendons-nous. Mais je vois pas ça s'étendre au secondaire ou d'autres des choses comme ça.
Non.
Je pense que je pense que c'est trop difficile. Puis je pense que c'est, il faut qu'on reste en présentiel, puis que faut probablement changer les matières à l'école au secondaire ou au primaire pour justement adapter à la nouvelle réalité. Peut-être donner des cours de programmation obligatoires qui remplaceraient une partie des mathématiques, cours d'économie, des choses comme ça.
Par moi, mais c'est un autre podcast au complet.
Mais c'est ça, c'est un autre sujet complètement. Mais là, on le voit en ce moment pour revenir au sujet du travail des jeunes. En ce moment, c'est certain qu'on n'est pas les... Je suis pas le seul. Moi, personnellement, je suis un petit peu sur le chômage en ce moment. C'est-à-dire que j'ai encore un emploi, mais j'ai pas d'heure. Il n'y a aucune heure qui me sont offertes. Je recommence très bientôt, heureusement. Mais pour plusieurs, ça va prendre... Tu sais, genre toi, Jonathan, qui travaillait dans le secteur événementiel, c'est mort.
Écoute, moi, c'est ridiculement mort, effectivement.
Mais faut que t'ailles dans les champs. Tu sais. Je réponds à l'appel de la nation de François Legault.
Exact. Et comme on a dit dans le dernier balado, de nouveau, je vous recommande fortement d'envoyer votre CV à l'UPA. C'est très rapide et efficace, alors je vous recommande encore une fois de le faire.
Mais malheureusement, pendant que des gens comme Jonathan lancent un appel au champ et de venir l'aider, on voit quand même beaucoup de stéréotypes. D'ailleurs, toi, Thierry, la raison pourquoi je t'avais invité sur ce balado-là, c'est en raison de tes statuts Facebook qui dénonçaient les stéréotypes des étudiants pas travaillants qui voulaient rester chez eux puis collecter des chèques de l'État. Alors que en opposition, le quinquagénaire canadien moyen, lui, était un homme travaillant ou une femme travaillante qui n'attendait que de retourner au travail et qui ne demandait rien du gouvernement. C'est vrai que ça devient frustrant à long.
Ouais, honnêtement, c'est un gros enjeu sociétal qu'on a depuis quand même assez longtemps. C'est-à-dire, honnêtement, si tu lis beaucoup de textes historiques, ça date pas d'hier que les jeunes, c'est tous des flemmards ici et des ça. Pour ceux-là qui sont pas habitués à terme français, un flemmard, c'est quelqu'un qui aime se pogner le bang comme en québécois, oui. J'ai censuré le mot en C.
Ouais, mais moi, c'est pas...
mais c'est ça, c'est que...
La censure n'existe pas ici.
Et généralement, elle est sous-estimée par les autres strates de la société. Normalement, on parle d'études à temps plein. C'est pas pour rien. C'est que si vous avez, par exemple, 26 heures d'études à l'école, ben, c'est que vous avez probablement un autre, et gros minimum, là, un autre gros minimum, 13 heures. Puis ça, je vous le dis, là, ça arrive pas. Là. Ça n'arrive pas vraiment qu'on a moins d'études que d'heures de cours. Bref, c'est à temps plein des études. Ensuite de ça, il y a la question du transport. La grande majorité des étudiants, si je ne me trompe pas, sont en transport en commun. Et surtout qu'il y a eu une augmentation depuis le... Excuse-moi, j'ai un blanc sur le nom, mais bref.
Le LPU?
Transport universitaire, oui, exactement, le LPU.
C'est à Québec, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est le laissez-passer universitaire à Québec qui nous donnait, dans nos frais de session, un accès illimité aux autobus à Lévis-Québec et les traversiers aussi. Et le futur tramway, je pense, était inclus, je ne suis pas sûr.
Oui, exactement. Du moins, il est censé être dans l'entente. Ici, souligné censé. On croise les doigts pour que ça le soit et pour que le LPU soit maintenu. Personnellement, j'en suis friand et... Quand je vais aller à l'université pour la continuité de mes études, je vais en profiter allègrement. Tout ça, ça s'ajoute, excusez-moi, avec le travail à temps partiel, et c'est là qu'on parle du travail chez les jeunes. C'est-à-dire que si on a déjà quelque chose à temps plein, en plus on va avoir un temps partiel, normalement le gouvernement recommande un maximum de 14 heures de travail bail par semaine pour les étudiants. Personnellement, je connais peu d'étudiants, soit que c'est le cas, que leur employeur respecte le 14 heures, ou B, qui sont capables de vivre avec seulement 14 heures de travail. Il y a vraiment une, il y a vraiment une dissonance importante à ce niveau-là. Généralement, on va compenser à ce moment-là en travaillant plus. En travaillant plus, ben, veux pas, c'est la charge de stress et la charge de fatigue, un par-dessus l'autre, et quelque chose qu'en ce moment, les gens ressentent, l'isolement. Parce que quand tu es aux études, quand tu es en train d'étudier, quand tu es en train de travailler, tu n'es pas avec tes chums. On va démentir ça là, tout de suite. Là, aller à l'école, là, c'est pas une marche dans le parc, là, honnêtement. Là. Ben, moi, personnellement, je trouve pas que c'est une marche dans le parc. Oui, il y a des gens avec qui je m'entends bien. Mais je ne suis pas en train de relaxer avec mes chums. Si j'ai 60 heures dans ma semaine, plus les transports, fait qu'on va totaliser ça à, oui, j'habite à Saint-Émile, donc mes transports sont moins sympathiques, environ 105 à 70 heures par semaine, ben c'est tout du temps durant lesquels je vois pas mes gens. Facilement. Et en ce moment, la population québécoise réalise à quel point c'est difficile de ne pas avoir de contact. Ben ça, là, c'est ce que la communauté étudiante vie ou essaye de se débattre contre, généralement en dormant pas. Je pense qu'on pourrait sortir des statistiques sur le nombre d'heures de sommeil des étudiants, puis je vous garantis que c'est pas dans les normes des organisations qui font des recommandations sur la santé.
Moi, je pense pas, effectivement. Mais cette espèce de réaction-là face aux subventions, ça rentre un peu dans ce qu'on allait parler avec le fameux esprit critique puis l'analyse des données, tu sais, je veux dire. On donne 1250$ aux étudiants et 2000$ maintenant aux étudiants handicapés. S'ils font en dessous de 1000$ par mois, qu'est-ce qu'on fait? On interprète nos données. Ben, c'est évident que les étudiants vont rester chez eux. Hein? Qui serait assez fou pour aller travailler? Et ben, non, pas vraiment. Parce que, tu sais, je veux dire, comme moi, j'ai dit à mon patron, je ne commencerai pas à travailler 14 heures pour toucher le 1250$ du gouvernement. Je veux travailler, je veux sortir de chez nous. Tu sais, je me peux plus.
Puis pas juste ça aussi, c'est qu'au nombre d'étudiants qui ont une dette, moindrement qui sont à l'université, ou même dans le cas de ceux, par exemple, qui sont au cégep, mais qui ont un appartement à payer, qui ont des modes de transport à payer, nomme-les toutes, là, une épicerie à payer, bref, les réalités de vie adulte, qui sont aussi des réalités étudiantes, n'en déplaise à certains. Veux, veux pas, tu es arrivé dans une situation où est-ce que tu peux pas juste dire « Ah, ben l'étudiant, il va prendre son 1250$, puis il va rester à la maison. » Non, non. L'étudiant, ça lui donne juste une meilleure chance de payer ses dettes, de rembourser ses prêts et bourses. Ça lui donne peut-être une chance de commencer justement son après-étude de manière un peu plus douce, un peu plus décente. Honnêtement, je connais beaucoup, beaucoup d'étudiants qui ont des dettes de plusieurs milliers que quand ils ont reçu la nouvelle, ils ont dit ah, ça va me donner une chance. Quand je vais recommencer à travailler, ben ça va commencer à faire un pas pire remboursement. Hey, ça fait mal à entendre, honnêtement, là. On est loin du les étudiants vont se pogner le beigne avec 1250$, là. Non.
De toute façon, je veux dire, il y a effectivement ce que tu disais tantôt, une dissonance, c'est que le gouvernement encourage les jeunes à pas trop travailler, le gouvernement encourage les jeunes à aller à l'école, mais d'un autre côté, les conditions sont pas... La table n'est pas mise pour ça, mais je vais laisser la parole à Jonathan par rapport justement à ça, les fameux préjugés puis tout ça, parce qu'on s'entend que...
C'est
quelqu'un qui travaille entre nous trois, je sais pas comment est-ce que toi, Thierry, tu travailles, mais Jonathan, Stiffy, je le traite souvent de pas de vie, là.
Ben, écoute, non, mais après, moi, j'ai vraiment l'impression que les étudiants en général sont très job over, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire qu'ils ont, à cause des études, à cause du fait que justement on a cette réalité de vie adulte que tu as très bien expliqué et minéré, Thierry, on a tendance à continuellement vouloir enrichir ces capacités-là à juste travailler autant physiquement que psychologiquement, là, je veux dire. Et au final, ce qui se passe, ben, je pense qu'on peut parler, qu'on peut le dire, c'est qu'il y a une fracture qui se crée entre les générations, puis c'est pas une fracture qui est nécessairement visible au premier abord, mais qui devient visible et de façon très péjorative, négative, avec, bon, d'une part, les médias, des politiciens, peu importe, on nommera pas de nom ou qui que ce soit, mais il y a toujours cette idée que, ah bon, les jeunes, ils font moins que les vieux. Oui, mais le problème, voici le problème, c'est que légitimement, c'est nous la relève de ces gens-là. Et je crois que rendu à un certain âge, on comprend cette valeur-là, c'est-à-dire nos âges actuels. Je pense que c'est assez évident que, on le sait, on doit payer notre juste part et on doit faire notre juste part. Et comment on fait ça? Ben, c'est en allant étudier, en ayant un emploi, puis en payant des impôts et des taxes en temps et lieu. Donc, je crois que c'est, encore une fois, c'est un peu comme mes premiers propos de début de balado, c'est sur le long terme qu'on finit par réaliser l'importance considérable de nos gestes actuels. Et j'ai peur, dans un sens, qu'on tombe dans cette même naïveté, si je peux dire, que ces mêmes gens qui nous traitent de ci et de ça, lorsque nous aurons leur âge. Dans l'idée où, justement, eux ont également étudié, travaillé de façon acharnée pour finalement dire qu'on fait rien. Et nous, à l'heure actuelle, on travaille de façon acharnée pour finalement peut-être dire que les jeunes, lorsqu'ils auront notre âge, ne font rien. Alors,
on va faire l'espèce de cercle vicieux. Là,
oui, exactement. Exactement. C'est un peu le sentiment que j'ai. Et puis là, bon, encore une fois, c'est un peu l'historien en moi qui parle. Mais c'est le feeling c'était que j'ai.
Justement, Socrate qui disait, Socrate, tout placement, dans un de ses livres, il dit que la génération nouvelle ne se lève pas quand les aînés rentrent dans la pièce, c'est des bons à rien. Puis j'étais comme.
En Grèce antique, c'était déjà comme ça.
C'est ça que je disais tantôt, là, ça date pas d'hier.
Non, mais c'est justement.
Une espèce de guerre générationnelle, un petit peu.
C'est tout le temps. Puis moi, personnellement, pour enseigner et avoir enseigné, j'ai eu le plaisir, en fait, d'accompagner des étudiants dans leurs projets pour faire, en fait, des débats à l'Assemblée nationale entre jeunes. Ça a été un super projet. Moi, honnêtement, je trouve que la génération qui nous suit, celle qui est au secondaire en ce moment, c'est une génération merveilleuse avec du monde allumé. C'est sûr que c'est pas les mêmes personnes que nous. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes ou les mêmes valeurs que nous. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que malgré ça, puis même dans les domaines où est-ce que je m'entends peut-être moins avec eux autres, c'est une super belle génération. Mais mon Dieu, que j'entends des choses épouvantables dites à leur sujet par d'autres personnes. Ça me fait capoter. Puis pourtant, on devrait vouloir avant tout créer un contact avec ces jeunes-là. Parce que c'est comme ça qu'on enrichit une société. T'as des partis politiques qui sont justement aux prises avec le fait qu'ils n'ont peut-être pas assez de jeunes pour bien connaître les réalités des jeunes, puis d'établir des politiques pour les jeunes, justement parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce pont-là entre les générations.
Il y a un autre aspect aussi du côté des partis politiques, que ça fait partie un petit peu des mauvaises interprétations, tu sais. T'as des partis politiques qui laissent énormément de place à leurs jeunes. Je pense que le Forum Jeunesse Libérale laisse quand même beaucoup de place médiatiquement à ces jeunes. Le PQ donne quand même pas mal de place aussi à ces jeunes, mais les jeunes de la CAQ, on n'en entend pas vraiment parler. Anciennement, les jeunes de la DQ, c'était pas vraiment plus que ça. Au niveau du fédéral, je veux dire, le Parti conservateur, est-ce qu'ils ont des jeunes? Je veux dire, on les entend pas. Il y a quand même une espèce de dissonance entre certains partis où il faut donner de la place aux jeunes, il faut qu'on leur donne des responsabilités, et d'autres partis où c'est comme il faut qu'on camoufle nos jeunes le temps qu'on ait réussi à les amener à ce qu'ils puissent pas dire de quelque chose qui puisse nous embarrasser. Mais tu peux pas prendre d'expérience si tu te retrouves jamais sous le feu de l'action parce que tu as dit quelque chose que tu n'aurais peut-être pas dû dire.
Et moi, jeune, là, puis personnellement, j'ai été super intéressé durant les élections, les dernières élections, en fait. Par l'ancien chef du PQ, en fait, qui, durant les... il y avait eu un débat jeunesse, en fait, juste avant le début des élections, avait apporté tellement de bons points, avait démontré tellement qu'il avait écouté ces jeunes dans le parti. J'avais trouvé ça intéressant. Honnêtement, ça m'avait impressionné. Je me souviens que, justement, le soir après le débat en question, je me suis assis dans ma chaise chez nous et j'ai fait « Oh boy, il va être dangereux ». Parce que justement, il avait été à l'écoute de ces jeunes, il avait jasé, puis ça avait paru, puis il avait eu de l'aisance à répondre aux questions qui avaient été posées. J'avais trouvé ça super intéressant comme exercice. Non, honnêtement, ça avait vraiment été une belle démonstration. Faut que je leur donne ça. Au PQ, vous avez quand même l'air d'avoir un pas pire dialogue.
Non, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. C'est juste... Mais tu sais, c'est certain que, encore une fois, la place des jeunes en politique, c'est un débat éternel. Est-ce qu'on devrait avoir plus de candidats jeunes? Ben, moi, je pense que oui. Mais après, quand les jeunes se présentent, ils se font souvent regarder de haut. En voulant dire, ben, ton CV, c'est quoi? T'es juste étudiant ou tu viens juste sortir des études, t'as pas d'expérience, tout ça. Ben, tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste... Tu peux pas vouloir plus d'implication des jeunes, moins de cynisme, pis tout ça. Puis constamment... repousser du revers de la main l'expérience des jeunes, ou repousser du revers de la main les idées que les jeunes amènent. Et donc ça, il y a ce côté-là où ce que autant au fédéral qu'au provincial, on voit pas vraiment la transition vers les jeunes se faire. Peut-être un peu plus au fédéral où ce que la moyenne d'âge des chefs est quand même assez jeune. Je pense que Justin Trudeau est le plus vieux. Puis il est pas même vieux, Justin Trudeau.
Non, il est pas vieux.
Mais tu sais, c'est je trouve ça triste. Quand même, mettons, toi, Thierry, tu voudrais te présenter demain matin, je suis pas mal sûr qu'il ferait « on va aller chercher le vieux monsieur de 40 ans qui a de l'expérience dans le business. »
C'est encore drôle. Il y avait quand même un certain nombre de candidats au Parti libéral qui étaient jeunes, puis moi, j'en ai connu. Puis notamment, il y a eu celui qui ensuite a été président pendant un certain temps de la commission jeunesse après le départ de Stéphane Stril, Jonathan Lapointe. Jonathan était candidat, justement, durant les élections. Puis, pas vieux, Jonathan. Là. Je crois que, si je me souviens bien, en ce moment, il doit avoir 24 ou 25 maximum. Puis, honnêtement, un bon brain, puis il avait eu un super bon contact avec les instances. Puis, je sais qu'il s'entendait bien, si je me trompe pas, avec Philippe Couillard, là, qui avait été... puis ça, c'est très peu connu, mais Philippe Couillard a quand même un très bon contact avec ses candidats. C'est une personne, tu sais, que dans les médias, ça n'a pas été tant discuté que ça, mais qui avait une bonne approche aussi, puis quand même assez rassurant. J'espère honnêtement que autant du PQ que du bord du PLQ, les prochains chefs vont hériter de Philippe Couillard et de Jean-François Lisée cette capacité-là à écouter les jeunes. Je trouve que c'est vraiment important. C'est des valeurs qui doivent être transmises.
Ben, historiquement, le PLQ, vous avez quand même une belle histoire. Je veux dire, Robert Bourassa, avec les jeunes, ça a été une histoire d'amour tout le long. Il avait formé Mario Dumont sous son aile jusqu'à ce que Mario Dumont parte à la suite de l'ACMI, tout ça. Mais Robert Bourassa, a été le premier ministre à se mettre automatiquement ministre de la jeunesse. Et depuis ce temps-là, c'est le poste occupé par le premier ministre toujours. C'est toujours lui qui s'occupe d'être le ministre de la jeunesse, un peu comme Justin Trudeau a fait au fédéral aussi. Et c'est le PLQ qui avait augmenté le rapport de son forum jeunesse dans ses instances à 33%, je pense, du pouvoir.
Ouais.
33,3. Donc, il y a des partis qui font des efforts, il y a des partis qui en font moins. Puis, effectivement, je vais souhaiter comme toi que le prochain chef du PQ soit quelqu'un d'attentif. Pour l'instant, moi, quand on est allé au congrès, moi et Jonathan, Jonathan, tu me donneras ton opinion là-dessus, mais Sylvain Godreau a été là toutes les journées, mais genre toutes, super accessible, on pouvait y parler. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est arrivé, évidemment, il n'est pas resté très longtemps, parce que je pense que sa femme a accouché, je pense, 4 heures après, tu sais, fait que c'était... Très clairement, il était là, il était très, très gentil le temps qu'il était là, mais tu voyais qu'il était nerveux, qu'il y a quelque chose qui arrive pendant qu'il parlait au micro, là. Frédéric Bastien, c'est pas sa clientèle vraiment. Après ça, il y en a d'autres comme ça, mais ils ont tous été très accessibles. Toi, qu'est-ce que tu en avais pensé, Jonathan?
Ben, je partage ton opinion. C'est certain que, écoute, M. Gaudreau, on peut pas lui enlever ça, là. Je veux dire, il est hyper accessible, même en période de confinement, il reste accessible. C'est quand même relativement incroyable. Ça paraît qu'il tient à cœur sa candidature à la chefferie, alors vraiment, tant mieux.
Parole de député aussi, hein. C'est pas, il fait oui, pas ça oui, parce qu'il est candidat à la chefferie, c'est non, clairement non, aussi son service citoyen. Là.
C'est sûr. Puis écoute, je te suis ensuite, là, PSPP, écoute, c'est ses discours, les discours de PSPP, c'est juste du bonbon à l'oreille, c'est incroyable. Et bon, après, par la suite, bon, évidemment, il y a M. Nantel qui est bien connu par le fait qu'il est humoriste, bon, etc., etc., mais bon, ça reste que, effectivement, on a quand même Les six candidats du moment sont venus lors du congrès jeune pour un peu discuter, justement, faire valoir un peu leurs idéaux en général, tout ça. Alors, il faut pas, faut leur donner. Ils se sont déplacés, ils sont venus faire ce qu'ils avaient à faire.
On n'a pas eu la chance de voir Mme Anglade et M. Cusson aux affaires.
Non, malheureusement.
La jeunesse, ça a tout été annulé.
Mais on était supposé aller à leur débat du 4 avril, je crois.
Oui, du 4 avril à l'Hôtel Plaza, ça a tout été annulé, malheureusement.
Malheureusement, ça aurait été vraiment intéressant de voir. En fait, moi, j'ai personnellement une bonne estime pour Mme Anglade. Je crois personnellement qu'elle sera et qu'elle devrait être la prochaine chef du Parti libéral du Québec. Maintenant, j'ose me permettre la question, Thierry, qu'est-ce que t'en penses?
Par contre, Thierry, t'es pas obligé de répondre.
Puis si tu veux pas répondre, on
enlève. Moi, personnellement, c'est sûr qu'en ce moment, c'est dur de le dire parce qu'on est en bref de campagne et ça arrête. Et on entend parler de M. Cusson. C'est sûr qu'il y a une question aussi, justement, de pas profiter du temps off pour faire de la politique. On veut pas ça. Je pense que c'est une bonne décision éthique qui a été faite à ce sujet-là.
Tous les partis ont suivi cette décision-là, d'ailleurs.
Un peu, oui, ouais. Effectivement.
D'expérience personnelle, par exemple, Dominique Anglade a un meilleur contact avec les jeunes que M. Cusson. Moi, personnellement, j'ai eu des très bons rapports avec Mme Anglade. Je trouve que c'est une personne qui est très à l'écoute, très attentive. Puis ça, c'est vraiment... tu sais, c'est facile de dire un politicien est accessible, mais est-ce que le politicien t'écoute? Et je trouve que Dominique Anglade, elle a une bonne mémoire et elle a une bonne écoute. C'est deux choses très importantes. Quand on parle de mémoire, c'est souvent sous-estimé en politique. La raison pour laquelle Jean Charest avait autant de succès à son époque, c'est parce qu'il a une mémoire phénoménale.
Il est étudiant en droit en même temps, là, c'est un peu de la triche. Quand tu réussis à te souvenir du code civil, après tu te souviens du nom du gars qui t'a serré la main, c'est peut-être plus facile, vous me direz.
Écoute, là, il y a des anecdotes épouvantables là, au sujet de sa mémoire, mais ça, je pense que c'est un élément important. Je pense que Dominique Anglade, elle a ça de son bord. C'est son
je serais tellement mauvais en politique pour ça, là, sérieusement. Oh, là. Je serrais la main à une personne il y a 5 minutes. Je m'appelle Jean-Guy, puis je reviendrais. Jean-Claude, c'est ça. Là, je serais comme...
Quand je travaillais au Future Shop, ça m'arrivait là, juste de changer d'allée. Si je rencontrais le même client dans une allée différente, je redisais bonjour. Hey, pour revenir sur le sujet, parce que c'était quand même les jeunes et le travail, on va en profiter pour faire un...
Non, on était rendu à l'esprit critique et l'analyse des données, mais tu peux quand même y aller avec les jeunes et le travail.
J'ai une question importante pour toi, Sam, parce que je veux la passer à un économiste. Ben, je peux pas dire économiste encore, je pense que t'as pas fini tes études.
Non, j'ai pas fini, mais à OFB, tout ce que ça va, ça devrait se faire. Là.
Je vais la poser à un étudiant en économie, puis c'est une question au piège. Le 1250$, là, en réalité, combien ça coûte à la société?
Ben, ça dépend, parce que moi, il y a plein d'étudiants que je connais qui sont accessibles au PCU à 2000$. Le 1250$, il n'y a pas tant de personnes que ça qui vont le ramasser. C'est plus ceux qui n'avaient pas fait d'argent l'année d'avant.
Mais au-delà de ça, je trouve que c'est aussi, il faut considérer que cet argent-là va être soit redépensé ou être utilisé justement pour payer des dettes et donner plus de...
Mais je pense que j'en ai parlé dans un de mes articles. Je vais aller... Donne-moi 5 secondes, là, je vais aller checker ça. Parce que me semble que j'ai déjà écrit là-dessus, puis j'avais sorti un...
C'est pas bien ça. Tu vas pouvoir te citer toi-même.
Je déteste ça quand ça fait ça un petit peu. Ben oui, j'aime ça me citer moi-même. Attends un peu.
C'est toujours le fun de pouvoir se citer nous-mêmes. D'habitude, c'est parce qu'on est d'accord avec ce qu'on dit. La cohérence, c'est important.
Ben oui. Heureusement.
Tu sais, je veux dire à un moment donné. Mais j'ai ça quand je cherche mes affaires. Puis que je trouverai pas. Puis là, je trouverai pas ma citation. Mais en gros, ça voulait dire que. Ah, c'est ça. Les étudiants qui peuvent améliorer leur sort financier, payer des dettes, placer cet argent de côté, dans le pire des cas, ils consommeront cet argent en divertissement, une économie plus locale, ce qui facilitera la relance. Tu sais, je veux dire, l'argent, puis là, au pire, on coupera le moment où je cherchais mes mots dans le montage, là. Mais l'argent, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Donc, le 1250$ que tu mets, si l'étudiant le redépense dans la société, et on espère dans une économie locale, cet argent-là va créer de la valeur et des choses comme ça. Donc, ça coûte quelque chose, c'est certain. Là, je dis pas, hein, mais toutes les dépenses gouvernementales sont gratuites. Là, non, faut pas non plus virer fou que ça. Là.
Non.
Mais je pense que, Puis là, on entend souvent l'argument, mettons Maxime Bernier qui dit que le déficit est énorme, puis ça. C'est le plus gros conservateur fiscal que j'ai en tête, Maxime Bernier. Sauf que ne rien faire à l'heure actuelle, puis on parle pas juste des étudiants, je veux dire, c'est des millions de faillites, c'est un taux de chômage à on sait plus quel pourcent. T'sais. La reprise serait pratiquement impossible, on n'en sortirait plus. Le coût à long terme serait beaucoup plus grand que juste faire un déficit ou deux de cette envergure-là, puis on repart un petit peu où ce qu'on était, puis c'est beaucoup plus facile de faire un réajustement. Parce que ce que les gens comprennent pas souvent, c'est que pour redistribuer de la richesse, il faut que tu en crées. Mm-hmm. Et donc là, si tu laisses tout le monde mourir de faim, ben, tu n'auras pas de richesse qui va se créer, puis tu risques d'avoir des tensions sociales, des tensions économiques. Ça sera pas beau. Là. Donc moi, personnellement, le 1250$ sur le PCU, moi, je trouve, je suis d'ailleurs un défenseur du revenu universel garanti ou de la taxe négative. C'est quelque chose qui, ça va peut-être nous ouvrir les yeux là-dessus, l'utilité de ça. Mais, de ce côté-là, après, ça devient compliqué dans le système fédéral de savoir où est-ce qu'on en est, parce que transition level 150, le fédéral puis le provincial, c'est souvent pas clair lequel qui fait quoi, lequel a accès à quoi, puis surtout qui a droit de faire quoi. Et on se ramasse que là, Québec puis le Bloc québécois chiale que le 1250$ puis le PCU, ça nuit aux producteurs agricoles qui s'est rendu presque impossible pour eux autres de recruter. Puis de l'autre côté, on se dit, mais si c'était communiqué entre eux autres, ils auraient pu faire Ottawa fait ce programme-là avec droit de retrait pour le Québec ou juste laisser les provinces distribuer cet argent-là. Là, on en vient à... Ils se compétitionnent ou c'est quoi? Ils ont l'air de communiquer ensemble?
Ouais, surtout que d'un coup d'œil rapide, tu pourrais dire qu'en fait, François Legault est peut-être fâché que Justin Trudeau ait volé son slogan de campagne de remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Là.
Ouais.
Vu de main.
J'ai vraiment attendu longtemps pour la plugger, celle-là. OK. Mais, non, mais sans blague, tu sais, c'est ça. C'est la question un peu vers laquelle je voulais t'amener. On aurait tellement d'enjeux économiques et d'enjeux structurels, en fait, si on n'avait pas en ce moment des aides financières pour les étudiants. Parce qu'on a déjà quand même des statistiques assez intéressantes sur les difficultés de l'accès au marché immobilier chez les jeunes. Et que ça serait pas chic, honnêtement, dans ce type de circonstances-là. Ça ferait beaucoup bouger le marché, en tout cas.
Ouais, j'aimerais soulever un méchant gros débat. Et là... Et là, je pèse mes mots. Dans le fait actuel, en sachant, bon, le Québec reste une province du Canada comme les 9 autres provinces et territoires, tout ça, advenant que la crise, et là, c'est vraiment, bon, c'est de l'hypothétique. Si la crise aurait réellement été pire que ce qu'elle est présentement, j'ai vraiment l'impression que le fédéral aurait et devrait s'approprier les pleins pouvoirs. Mais quand je dis les pleins pouvoirs, c'est les pleins pouvoirs. Dans le sens où, dans la mesure où il y a une crise mondiale catastrophique, c'est peut-être mieux de centraliser la totalité des ressources à un palier de gouvernement pour mieux les distribuer par la suite.
Ben moi, je dis fuck that, là, je m'excuse, mais non.
Ben, non, mais c'est, ouais, je soulève le débat. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire, évidemment, pour des raisons évidentes. Je reste un souverainiste, right?
Non, mais un État fédéral, je peux pas... non, ça peut pas marcher centralisé. On le voit à toutes les fois qu'Ottawa centralise quelque chose, ça fait de la misère.
C'est ça, mais pourquoi ça fait de la misère?
Parce que le pays est beaucoup trop grand. Tu peux pas avoir quelqu'un de représentatif à Ottawa qui va comprendre la réalité à Vancouver et au Nouveau-Brunswick en même temps.
Alors?
Surtout quand ils n'ont pas une population équivalente. Je veux dire, si le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique avaient les deux 20 députés, puis parce qu'il y aurait une même population, il y aurait un poids égal dans la fédération, mais c'est pas le cas. Le Nouveau-Brunswick ont peut-être 6 députés, tandis que la Colombie-Britannique va en avoir 9. Puis après, au milieu de ça, tu as l'Ontario, qui a avantage de ce que tout centralise, qui a 60 députés.
C'est certain.
Mais sans dire qu'on centralise tout, je pense que de centraliser, par exemple, les mesures de gestion de crise, ça, par exemple, ça pourrait être un enjeu discutable. C'est un peu
puis encore, Justin Trudeau n'est pas lui qui a le mieux réagi en crise. C'est lui qui a réagi à la remorque des provinces.
C'est loin d'être le pire, par exemple. C'est sûr que gérer un pays, c'est pas la même game que de gérer une province. On va s'entendre là-dessus. Là.
C'est sûr, mais qui était pire que lui au Canada?
En non, fait, c'est au niveau mondial.
Au niveau mondial, c'est pas le pire. Je sais bien que c'est pas le pire au niveau mondial. On a Bolsonaro qui s'amuse à dire que ça n'existe pas, le coronavirus. Mais tu sais, je veux dire, dans notre cours, Enzo, qui aurait agi moins bien que Trudeau? J'en connais pas bien, vite dans même.
Ouais, mais il n'y a personne qui a eu à réagir avec les mêmes éléments non plus.
C'est sûr, mais quand c'est rendu que la mairesse de Montréal va à l'aéroport faire le contrôle frontalier à ta place, c'est gênant.
Ah, mais ça, c'est qu'aussi, t'as des enjeux à considérer, puis la mairesse de Montréal, est-ce qu'elle a considéré ces enjeux-là? Par exemple, t'avais les enjeux de rapatriement, t'avais les enjeux commerciaux, puis ça, c'est honnêtement, c'est difficile, parce qu'il faut que t'aies des discussions à l'international. Tant que tes discussions sont pas terminées, c'est difficile de prendre une décision sans froisser un, sans froisser l'autre, puis il peut y avoir des conséquences économiques à ça.
Je suis d'accord avec toi, mais quand même, on aurait pu faire plus que juste donner un petit papier qui dit « si tu tousses, isole-toi ». Je veux dire, on aurait pu poser des questions, on aurait pu forcer l'isolement des gens.
Ça, je suis d'accord. Par contre, au niveau de la fermeture des frontières, je pense que le timing n'a pas été désastreux. Puis ça, c'est un argument que je vois partout. Tout le monde dit « Trudeau a attendu trop longtemps pour fermer les frontières ».
C'est la frontière américaine, peut-être, qui a été trop longue avant d'être fermée. Parce que c'est de là que tous nos cas viennent, ou presque, à cause de New York.
Encore une fois, il faut peser le pour et le contre. C'est 80% de notre économie qui dépend des États-Unis. Là.
Non, c'est sûr, mais on se ramasse une volée quasiment équivalente. Ben, je dis ça en exagérant, mais on se ramasse qui ne doit pas être loin.
Et évidemment, niveau proportionnel, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense qu'à ce niveau-là, malgré le fait que je suis en accord encore une fois avec toi, Sam, je crois que Trudeau a effectivement peut-être... on le voyait de toute façon dans ses conférences de presse hebdomadaires. On le voyait tout de suite qu'il était... Quotidienne, pardon. Très mal à l'aise d'en parler parce qu'on le voyait très clairement que d'abord, son cabinet était en surchauffe. Et que son bureau également est en surchauffe. Alors là, on pose tout le poids de la question sur un individu, alors que c'est clair à 100% qu'il n'est pas celui qui décide sur cette question-là.
Mais on peut
et
même se poser
on,
la question, on le force, je sais toujours sur quoi il décide.
Ben, honnêtement, pour être très franc, le premier ministre du Canada décide à peu près sur rien. Certes qu'il a le droit de veto légitime, mais c'est pas lui qui décide au final, et c'est encore moins les élus. C'est clairement à 100% son bureau privé de gens extrêmement renseignés sur l'actualité interne et mondiale. C'est ces gens-là qui décident. Et ces gens-là sont situés en face du Parlement à Ottawa, pas dans le Parlement. Alors, On pose le poids de la question sur cet individu-là qui n'a absolument aucune idée de quoi répondre. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que ça niaise et que ça déborde dans tous les sens. Alors qu'en réalité, je suis persuadé qu'il y a un immense travail qui se fait derrière pour en arriver à une conclusion logique. Mais bon, est-ce que ça aurait pu être fait différemment? Je pense que oui. Mais est-ce que dans l'état actuel des choses, c'est catastrophique? Je ne pense pas.
Ici, je pense que les mesures externes étaient bonnes, les mesures internes ont été insuffisantes.
Exact.
C'est mon point.
Ben moi, je pense... c'est drôle, c'est l'inverse. Je trouve que les mesures externes de Trudeau, si on parle des mesures internationales, je trouve que les mesures internationales de Trudeau étaient mauvaises, insuffisantes, manquaient de courage, alors que ces mesures à l'interne, c'est-à-dire les mesures économiques et des choses comme ça, ont été relativement rapides et elles ont réussi à éviter le pire, je pense. Et donc, c'est-à-dire que quand Trudeau a pris la décision de mettre le PCU, plusieurs nous disent que c'est pas lui, que c'est l'opposition qui a travaillé fort pour ça. Effectivement, potentiellement que c'est vrai. Je suis pas une mouche sur le mur qui a vu tout ça. Par contre, quand bien même qu'il a dit oui après s'être fait convaincre, il a fini par dire oui. Il a pris la bonne décision, selon moi. Par contre, la décision d'envoyer des masques puis du matériel médical à la Chine en plein milieu que nous autres on avait déjà notre économie. Les décisions de prendre, de réouvrir le chemin Roxham en plein milieu d'une épidémie, c'est pas terrible. Tu sais, je veux dire, il a pas donné l'information, il a pas aidé les agents frontaliers du Canada qui se sont plaints ouvertement qu'ils étaient dans le noir. Moi, de ce côté-là, c'est là que ça m'a déçu énormément la réponse du gouvernement fédéral et j'avais l'impression que c'était idéologique. La décision de ne pas fermer les frontières.
Attends un peu, là. Quand on parle d'être dans le noir, faut pas oublier non plus que même nos forces de l'ordre au Québec et à Québec, par exemple, ont de la misère eux-mêmes à suivre les réglementations en ce moment. T'sais, c'est un défi que le provincial a aussi et que le provincial peine aussi à maintenir. Puis si tu regardes, je sais pas honnêtement c'est comment par chez vous, mais moi si je regarde par ma fenêtre, je garantis que les mesures de distanciation sociale sont très mal comprises. C'est c'est un gros défi de communication, mine de rien, la gestion de la crise en ce moment.
Mmh. Puis, non, c'est certain.
C'est vraiment pas tout le monde c'est qui réussit.
Un agent frontalier, c'est la première ligne de défense. Ça devrait être les premiers au moins à savoir c'est quoi les symptômes, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses sur les symptômes, comment te protéger, mettre les gens en isolement ou pas. Ça, faudrait leur donner ce pouvoir-là aussi.
Ouais.
T'sais, le droit de refuser les gens ou whatever. T'sais, je veux dire, c'est pas. Enfin bref, moi ça m'avait dit.
Il y a toujours aussi au final la question. Et là, bon, ça fait. On l'a déjà soulevé, mais ça revient à ça, malheureusement. Il y a toujours cette question de l'État totalitaire. On veut pas tomber là-dedans, évidemment, parce qu'on est une démocratie, machin, mais à un moment donné, il faut peser le pour et le contre, là, tu sais. Alors, je suis complètement avec toi, Sam, quand tu dis qu'il faut. Il faut que les premières forces sur le terrain soient au courant de tous ces éléments-là et de la situation et qu'ils imposent également les mesures restrictives. On parle d'imposition, là. Mm. Il faut évidemment, il va toujours y avoir des citoyens récalcitrants. Ça, je veux dire, ça fait partie de la société.
On les gère déjà avec eux autres, on leur donne des amendes.
Oui, ben justement, exactement ça qu'il faut faire, puis il faut continuer de le faire. Aussi plate et pourri que ça sonne, il faut continuer de le faire. C'est la seule façon de faire respecter les lois, tout simplement. C'est les règles qui ont été imposées par Québec ou par Ottawa. Il faut les respecter. Moi, c'est aussi simple que ça. Mais donc, là, toujours faire attention à l'État totalitaire. Toujours
avec la crise en ce moment, vous autres, vous pensez que fédéral puis provincial, l'espèce de séparation des pouvoirs entre les deux, vous pensez que ça... Est-ce qu'il y a eu une certaine compétition entre les deux, j'en sais pas lequel... a fait droit à quoi, ou il y a une bonne communication, ou bien c'est juste un système qui n'est pas bien adapté à réagir rapidement? Parce qu'on entend souvent que le système fédéral, c'est un système de concertation, de compromis, mais en situation de crise, c'est pas toujours le temps de faire ça. Hein.
Dans le titre de la question que tu disais tantôt, si je me souviens bien, c'était fédéral versus provincial, compétition versus disjonction. Moi, je vais mettre mon point sur disjonction, en fait, justement, au vu des difficultés de communication et d'organisation que le gouvernement fédéral a eues. Je pense pas honnêtement qu'il y avait dans leur plan de match de faire censurer, bien sûr, le mot ici, le provincial. Honnêtement, là, je pense que ça devait tellement être le dernier de leurs soucis. Là. Je pense que vraiment, en fait, leurs décisions ont été prises peut-être sans considération des décisions provinciales, mais définitivement pas en compétition.
C'est intéressant. Ben... compétition, non, je partage l'opinion de Thierry. De toute façon, nous au Québec, je pense qu'on peut honnêtement se le dire entre nous trois, la gestion de crise du gouvernement Legault, c'est pas un parfait, évidemment, il n'y a rien de parfait, mais sincèrement, c'est du solide et je crois que ça se ressent. C'est du solide. Mais, il faut, encore une fois, tant et aussi longtemps que le Québec reste dans le Canada, il faut respecter les lois constitutionnelles. Les lois constitutionnelles sont faites justement pour respecter la législation fédérale et la législation provinciale. Et tant et aussi longtemps qu'on reste dans ces normes, il n'y en a pas de problème, à mon avis. Mais c'est certain que, bon, sur une question comme les frontières, ou bien, veut pas, les 10 provinces et territoires sont concernés, il faut qu'il y ait un certain accord puis une certaine communication à l'interne du pays. Puis ça, ben, c'est la job du PM, de son bureau, de son cabinet, encore une fois. Puis, bon, il faut en arriver à des consensus. Puis, bon, c'est ça. Donc, il faut savoir faire la part des choses.
Wow. Ça nous fait quand même un bon balado, quasiment une heure, les boys. Moi, sincèrement, j'ai bien aimé ça. On va essayer de te réinviter, Thierry, quand même.
Ben écoute, ça me ferait plaisir. On a tellement eu de sujets qu'on a dit que ça ferait un balado complet. Puis honnêtement, j'aurais pu leur dire une ou deux fois facilement, puis je me suis dit que la cassette devenait vieille.
Ben, écoute, c'est ça qui est le fun avec des débats d'idées, c'est que tu peux toujours trouver quoi à dire. Mais il faut savoir se limiter dans le temps parce que sinon les gens n'écouteront pas. Fait que, si vous avez un sujet qu'on a abordé que vous aimeriez avoir en plus grand détail, vous pouvez toujours nous contacter à ce sujet-là. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Ah ben c'est sûr, il n'y a rien qui nous empêche de passer une autre heure en tant que compagnie, Thierry, pour parler d'un sujet en particulier.
Moi, ça, je serais bien intéressé à parler du fameux débat santé fédérale versus provinciale. Mais...
Ah oui, ça va rocker, ça.
Donc oui, c'est ça, Thierry. Écoute, gêne-toi pas de nous laisser savoir sur Facebook ou Discord si tu veux qu'on parle plus de long en large d'un sujet en particulier. Ou vous, chers auditeurs, évidemment. Là, donc, ça va nous faire plaisir, ça c'est certain. Donc voilà, j'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.
Bonne soirée à tous.